c'est ludique.
Et oui, c'est ludique aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue dans Jurassic Park. Alors aujourd'hui, on va jouer à Draftosaurus, un jeu signé Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Bref, à part Bruno Catala, il ne manque pas grand monde. On est dans la team du top au niveau auteur de jeu. Alors est-ce que vous êtes prêt à mettre votre main dans le sac qui est rempli de dinosaures? Allez, n'ayez pas peur, ils sont tout petits, en bois et colorés, donc rien de bien méchant. Vous pourrez jouer de 2 à 5 avec une règle particulière à 2. Chaque joueur aura donc son plateau qui représente un grand parc d'attractions pour les dinosaures. Pour l'instant, vous l'avez compris, les enclos sont vides. Ils ont des noms et des tailles différentes, par exemple la prairie, des amoureux ou encore le roi de la jungle. Alors, dans un sac opaque sont placés tous les dinos correspondant au nombre de joueurs. Une partie va se dérouler donc en 2 manches, 2 6 tours chacune. Au début de chaque manche, chaque joueur va piocher à tour de rôle 6 dinos et les conserve cachés dans sa main. Et oui, le premier joueur va lancer le dé de contrainte qui va fixer donc l'arrêt de la suve pour poser le dino dans son parc. Tous les joueurs, sauf celui qui a lancé le dé, sont tenus de respecter cette contrainte. Et oui, sinon le dino va vous manger. Non, pas... c'est pas ça. Allez, par exemple, vous placez un dino dans un enclos de la forêt, ou dans la plaine, ou à droite de la rivière, ou à gauche, ou encore dans un enclos vide. Chaque enclos, donc, a ses propres caractéristiques de pose. Par exemple, la forêt des similaires accueille uniquement des dinos de même couleur, donc de même espèce, et doit être remplie de gauche à droite. La plaine des différences, vous l'avez compris, uniquement des dinos différents. Et doit être rempli pareil de gauche à droite parce qu'il y a des points en fonction des cases. La prairie des amoureux, alors là tout type de dinos, mais à la fin de la partie pour gagner, seuls les couples de dinos similaires compteront forcément puisqu'ils sont amoureux. Le trio des bois lui accueille jusqu'à 3 dinos, alors peu importe la couleur, à vrai dire. Le roi de la jungle, lui n'accueille qu'un seul dino parce que c'est le roi. Et l'île du solitaire, n'accueille aussi qu'un seul dino parce qu'il est tout seul. Alors des règles à respecter pour apporter des points de victoire en fin de partie sont ajoutées donc aux enclos. Mais vous l'avez compris dans le titre, c'est un jeu de draft. Alors quand c'est des cartes, on passe à son voisin, là on passe ses dinos à son voisin. Une fois que chaque joueur a posé son dino dans un enclos en respectant les règles de placement des enclos et la contrainte imposée par le dé lancé à chaque tour, tous les joueurs passent les dinos qui lui restent en main en les gardant cachés à son voisin de gauche. Alors le joueur suivant lance le dé de contrainte et le nouveau tour commence. À la fin de la première manche, chacun va repiocher 6 dinosaures dans le sac et c'est reparti pour un tour. On additionne donc les points de victoire de chaque enclos et le joueur qui a le plus grand total, l'emporte. Il faut savoir que si vous retournez le plateau, vous avez un autre parc de dinosaures, et un petit peu plus difficile, je vous laisserai le découvrir. Alors personnellement, j'aime beaucoup ce jeu qui est sorti au printemps. Alors oui, c'est sûr, c'est pas le gros jeu expert, mais c'est un petit jeu plutôt sympa que l'on a envie de sortir pour jouer l'après-midi en famille, ou aussi avec ses potes, on a toujours envie de regarder si notre voisin a plus de dinosaures que nous dans telle ou telle catégorie, on essaye de faire des stratégies aussi pour essayer de contrer ses adversaires en jouant une couleur qui leur serait très utile dans la forêt des similaires par exemple, et puis lorsque votre voisin vous donne ses dinosaures, vous faites « Ah, je fais quoi maintenant ?» Il y a plein de rebondissements et ça c'est plutôt sympa. Et le plateau verso vous encourage encore plus à regarder la copie du voisin puisque certains points de victoire dépendront des dinos posés par votre voisin de droite. Allez, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller acheter ce jeu. Un jeu à partir de 8 ans, c'est familial, c'est sympa, c'est fun et c'est pour moins de 20€. Justement, on va se retrouver d'ici quelques minutes sur Millennium dans C'est Ludique avec Pierre-Henri Dupont qui est responsable communication chez l'éditeur Ankama.
C'est ludique.
Et oui, c'est ludique. À l'instant, je viens de vous présenter Draftosaurus, le jeu de chez Ankama, et je suis avec le responsable communication, Pierre-Henri Dupont. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour Mathieu.
Alors, on va parler d'Ankama. Est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de l'histoire d'Ankama?
Oui, bien sûr. Ankama, c'est une société relativement jeune. Ça a été fondé en 2001. Et au départ, c'était une société de communication, une agence web.
Ouais.
Mais hors de l'activité officielle, les fondateurs développaient un jeu vidéo qui s'appelle Dofus et qui est sorti en 2003. Ça a été un très gros succès. Derrière, la société a également développé des produits d'édition depuis 2006, des séries animées avec Wakfu, dont la sortie a eu lieu en 2008.
D'accord.
Et on s'est mis sur l'activité du jeu de plateau en 2012. Il faut savoir que c'est une société dont l'identité est le transmédia, un petit peu à la Marvel, c'est-à-dire que c'est un grand univers commun,
ouais.
Et dont chaque sortie, chaque média va apporter un nouveau pan de l'histoire.
D'accord. Alors comment vous êtes arrivé finalement au jeu de société ? Est-ce qu'il y avait des joueurs de jeux de plateau dans l'entreprise ?
Oui, c'est exactement ça. Il y avait des joueurs de jeux de plateau dans l'entreprise. Le CEO Anthony Roux est un très gros joueur de jeux de plateau, donc c'était une volonté. Et au départ, je dirais pas que c'est par accident, mais le premier jeu qu'on a développé, en fait, c'était suivant ce modèle de transmédia. Donc le jeu s'appelait Crossmaster Arena.
Ouais.
C'était un jeu qui étendait l'univers existant, donc il s'appelle le Crossmos. On retrouvait les héros des différentes histoires qu'on avait déjà créées. Mmh. Sur ce jeu de plateau. Et suite à cette expérience-là, a été décidé de faire des jeux que je vais appeler indépendants, c'est-à-dire qui ne dépendent plus forcément d'une histoire existante, mais qui peuvent être le point de départ d'une nouvelle histoire, d'un nouvel univers.
D'accord. Et vous êtes combien travaillé au total chez Ankama ?
Alors, chez Ankama, dans la globalité, on va être environ 200. Après, sur le pôle jeu de plateau, on est une petite dizaine.
Une petite dizaine au niveau du jeu de société. Alors, on va parler donc en particulier du jeu de société, c'est le but de l'émission. Comment vous sélectionnez vos jeux ?
Alors, on reçoit des propositions d'auteurs, ou alors on a des idées en interne de game design, de la manière de jouer qu'on développe en interne, et on va partir de ça. Donc quand des auteurs nous contactent, il y en a beaucoup, on en reçoit plusieurs par semaine,
ouais.
On étudie les projets, on voit si c'est cohérent avec les jeux qu'on a l'habitude de sortir, avec ce qu'on va appeler nos gammes.
D'accord.
Et si on voit qu'il y a effectivement quelque chose à faire, le projet nous intéresse, on va se mettre d'accord avec l'auteur pour avancer et développer le jeu conjointement avec lui.
Ok. Alors, on va parler forcément de l'un de vos grands succès hein, de cette année, Draftosaurus. Comment s'est passée d'ailleurs cette rencontre avec les différents auteurs ? On rappelle qu'il y a quand même Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière.
Ouais,
ça fait du monde quand même. Hein.
Ça fait du monde et du beau monde. La rencontre, elle a eu lieu grâce à l'agence Forge Next, qui est notamment un agent d'auteur. Donc, c'est aussi un moyen pour les auteurs de pouvoir toucher des éditeurs.
Mmh.
On travaillait conjointement avec eux sur différents projets et ils nous ont parlé de ce jeu-là. Et nous l'ont fait tester. On a tout de suite accroché. On a rencontré les auteurs et on s'est rapidement mis d'accord pour sortir le jeu.
Plutôt concept original en plus, parce qu'habituellement avec le draft on change de cartes, là c'est on échange des dinosaures.
Exactement, c'est un moyen amusant d'aborder le draft qui permet de le revisiter un petit peu, ça reste très accessible, ça permet aussi de toucher peut-être plus de monde, ça fait peut-être moins peur de voir des meeples de dinosaures un peu colorés, on sait à qui le jeu s'adresse comme ça.
Ouais, mais on voit, avec les enfants, on voit bien comment ça se passe quand on leur donne les dinosaures, et ils regardent, fait, oh, c'était pas ce que je voulais.
c'est une mécanique qui peut paraître compliquée au départ, le draft, et en fait c'est plus simple qu'il n'y paraît, et ça permet peut-être à certaines personnes de s'en rendre compte en l'essayant.
Ouais. Et alors justement, à part Draftosaurus aujourd'hui, qui est une grosse vente de chez Ankama cette année, quelle est votre plus grosse vente, tout jeu confondu chez vous, depuis le début du jeu de société ?
Alors depuis le début du jeu de société chez nous, ça va être le jeu dont je parlais tout à l'heure, notre premier jeu, Crossmaster Arena.
D'accord.
Qui est un jeu plus expert, un jeu d'escarmouche tactique, qui a également très bien fonctionné et qui vit encore depuis donc maintenant 7 ans, ce qui est relativement long pour du jeu de société. Ouais. Et d'ailleurs, le ressort cette fin d'année avec un game design édulcoré sous le nom de Crossmaster Blast pour le remettre au goût du jour.
D'accord. Donc ça, et ça fait combien de ventes à l'heure actuelle ?
Sur Crossmaster Arena, au global, on est environ à 70 000, 80 000.
D'accord, ouais, donc c'est, quand même, c'est une grosse vente pour du jeu de société. Ouais. Vous utilisez aussi beaucoup le Kickstarter. Alors on va parler en particulier de Arkes, qui est l'un de vos gros projets pour cette année.
Oui, c'est bien ça. Ouais. Le Kickstarter, qui est une plateforme qui est vraiment dédiée à certains types de jeux. Kickstarter, à la base, donc, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à des personnes ou à des sociétés de proposer des projets à une communauté et cette communauté peut décider de financer ou non les projets. Donc on peut retrouver n'importe quel type de projet, pas forcément des projets de jeux de société. Et pour certains projets, c'est essentiel. Par exemple, les projets qui ne vont pas correspondre au circuit traditionnel.
D'accord.
Par exemple, des projets qui vont demander un investissement très lourd avec beaucoup de figurines, donc beaucoup de moules, donc beaucoup de coûts fixes. On ne pourrait pas se permettre de les développer sans savoir s'il y a une demande auparavant. Et donc, en fait, passer par Kickstarter avant de lancer la production permet de savoir si effectivement il y a des gens intéressés, puisqu'en quelque sorte, ils préachètent le jeu. Mmh. Et ça permet donc de valider la faisabilité d'un projet.
Ouais, donc le Kickstarter, c'est quelque chose que vous allez utiliser régulièrement ?
Alors, c'est quelque chose qu'on souhaite utiliser une à deux fois par an.
Ouais.
Sur donc des projets spécifiques qui nécessitent de passer par ce biais-là. Et c'est effectivement aussi une approche un peu différente puisque ça permet aussi aux consommateurs, au public, d'avoir généralement plus de contenu par rapport au prix du jeu.
Ouais.
Dans le sens où ils sont en relation directe avec l'éditeur et qu'il y a donc moins d'intermédiaires.
Ouais, donc c'est quand même intéressant d'utiliser ce moyen. Certains éditeurs ne l'utilisent pas. Vous allez lancer donc le Kickstarter d'Arkes, c'est au mois de novembre ?
Oui, Arkes, le 5 novembre, qui est donc également un jeu de...
Toute la team ?
Oui, de la team Kaedama, où là, on va être sur un jeu dans l'Égypte antique, où le postulat de base est que, en fait, l'histoire qu'on raconte sur l'Égypte antique dans les universités et à l'école n'est pas la bonne, et on va donc devoir aller découvrir ce qu'il s'est réellement passé à l'époque dans l'Égypte antique, et on va notamment apprendre qu'en fait, il maîtrisait le pouvoir de la vapeur. Et on va donc rencontrer certains monstres et ennemis mécanisés. Et c'est une manière de revisiter ce thème d'une nouvelle façon.
Ouais, comme quoi, quand on est auteur de jeu, on peut vraiment créer n'importe quel jeu. On passerait de Draftosaurus à Arkes.
Oui. le principal étant de savoir dans le développement, dès le départ, à qui il va s'adresser pour ne pas pour ne pas se retrouver avec des jeux hybrides qui, en fait, ne correspondent à personne.
Et oui, c'est ça, ouais. Alors, on va parler maintenant un petit peu du futur, et on va commencer par votre nouveau jeu Welkin. Alors là, on est plutôt sur un jeu où le joueur va incarner un architecte qui devrait construire des îles dans le ciel, c'est ça ?
C'est exactement ça, oui. Welkin, c'est un jeu qu'on appelle... alors, j'ai plus le terme anglais, je suis désolé, Gateway, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est... destiné avant tout aux personnes qui veulent se mettre au jeu de société un peu plus compliqué.
D'accord.
C'est un jeu en fait donc qui va demander aux joueurs de construire des îles dans le ciel. Le joueur va avoir très peu d'actions différentes possibles à son tour. Il va en avoir trois, mais tout va se jouer dans la manière dont il va optimiser ses coûts. C'est un jeu de gestion puisqu'on va donc devoir sélectionner des contrats de construction, produire les ressources nécessaires à la création des îles et ensuite vendre les îles au meilleur moment puisque le prix des ressources va être modifié durant la partie.
D'accord. On aura l'occasion de façon de reparler de Welkin puisqu'il sera testé dans ses ludiques à la rentrée.
Oui.
Début septembre, vous allez sortir un autre jeu, les Trésors de Cibola.
Oui, les Trésors de Cibola, un jeu de Romaric Gallonier qui est un jeu familial. dans lequel on va demander aux joueurs d'aller piller des temples mayas, donc c'est assez mal.
Non, pas bien.
Et la subtilité, en fait, est que les joueurs vont devoir aller récupérer des trésors dans ces temples, sauf que la valeur des trésors va être définie par les joueurs eux-mêmes durant la partie.
D'accord.
Donc ça va être ils vont devoir s'adapter constamment à ce que font les autres, voir ce que les autres ont comme trésor pour réussir à tirer leur épingle du jeu.
Donc plutôt un jeu familial là.
Là on est sur un jeu familial. Ouais, on est sur le format encore en dessous de Draftosaurus.
Ah oui, en dessous de Draftosaurus. Ah oui, d'accord. Et en octobre, vous aurez donc les Ombres de Macao.
Oui, les Ombres de Macao, un jeu de Charles Chevalier où on va prendre les commandes d'une triade à Macao et l'objectif du jeu va être de réussir à prendre le contrôle de la ville, donc par rapport aux autres triades.
Ouais.
C'est un jeu donc où la partie va s'accélérer au fur et à mesure que le jeu se déroule, c'est-à-dire qu'on va se construire un moteur, on va commencer à avoir donc une petite triade, on va recruter des membres de plus en plus, ce qui va permettre d'acheter des bâtiments, de recruter encore plus de membres. Ça va être une gestion au fur et à mesure du jeu pour optimiser ses choix et réussir à s'étendre le plus rapidement possible.
Ok, et alors donc, vous avez un agenda très chargé avant cette fin d'année, hein, puisque en plus du lancement du Kickstarter de Arceus, vous aurez donc Chrome Master Blast qu'on vient de parler il y a quelques minutes, et la sortie du jeu Poison.
Oui, Poison, un party game de Bruno Fedutti, où on va pas pouvoir faire énormément confiance aux gens autour de la table. Donc c'est un party game, donc beaucoup de joueurs, on va être sur 3 à 8 joueurs, où le principe est que on est à un gala, on est tous en train de boire un verre, et chaque joueur a dans sa main des cartes neutres et une carte poison, et ouais. En fait à chaque tour, on va donner une carte à chaque joueur,
ouais.
Et les joueurs vont devoir décider s'ils boivent leur verre ou non. Donc comment ils vont pouvoir se décider? Au début de chaque tour, chaque joueur va retourner une carte score qu'ils ont devant eux, et ça va donner le nombre de points qu'ils peuvent marquer à ce tour-ci, et donc forcément ceux qui peuvent marquer beaucoup de points vont avoir tendance à peut-être être empoisonnés, sauf si des joueurs se disent que quelqu'un d'autre va les empoisonner, et le but va être donc de prendre les meilleures décisions pour essayer d'avoir le meilleur score, donc de décider de boire ou ne pas boire son verre en fonction de ce qu'ils pensent, de ce que les joueurs ont mis dans leur verre.
Très grosse actualité hein, donc chez Ankama. Ouais. Est-ce que c'est dur de se démarquer avec les autres éditeurs?
C'est forcément dur. Je pense que tous les éditeurs à qui vous posez la question vous répondront la même chose.
Ouais.
C'est effectivement dur dans le sens où il y a de plus en plus de sorties chaque année. Et donc, faut réussir à se démarquer par des nouvelles méthodes, soit réussir à trouver un game design qui n'a pas encore été abordé de telle manière ou sur ce thème qui lui colle très bien, soit réussir à se démarquer au niveau du matériel. Il faut trouver des petites choses qui apportent une plus-value aux joueurs. Sinon ça ne peut pas fonctionner.
Ouais. Parmi tous les jeux là que vous avez cités, est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui va se démarquer?
C'est compliqué d'en démarquer un dans le sens où si on les a signés,
mais oui.
C'est que c'est qu'on croit à tous.
Forcément.
Donc j'aurais du mal à en démarquer un parmi ceux-là.
Bien sûr. Et si vous deviez pour finir garder qu'un seul jeu, ça serait lequel?
Si on devait garder qu'un seul jeu parmi tous ceux qu'on n'a jamais sortis ou parmi ceux que j'ai annoncés là?
Non, parmi tous les jeux d'Ankama.
Parmi tous les jeux d'Ankama, si on devait en garder qu'un seul, vous êtes difficile avec vos questions. Je pense que là, dans les jeux sortis, si je suis terre à terre, dans ce cas-là, je garderai probablement Draftosaurus puisque c'est celui qui marche le mieux en ce moment.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Henri hein, d'avoir été sur Millennium et à
merci
très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Et oui, dans C'est Ludique, eh bien, on va continuer à parler de jeux de société. Et je vais vous parler maintenant de l'éditeur Days of Wonder, qui est connu notamment grâce à sa saga des Aventuriers du Rail. Alors, quel pays n'a pas eu ses Aventuriers du Rail ? L'an dernier, ils ont sorti les Aventuriers du Rail à New York et les Aventuriers du Rail Express. Des Aventuriers du Rail version jeu rapide. Et là, ils viennent de sortir les Aventuriers du Rail à Londres. Ils existent bien sûr, hein, les Aventuriers du Rail en France et dans le monde au total. Il y a 25 versions du jeu, mais aujourd'hui, je vais vous parler bien de la version Europe. Et oui, il fallait bien en choisir une, même si dans chaque version, on retrouvera le même concept. Alors, oui, c'est quoi les Aventuriers du Rail ? Déjà, première chose, si vous n'avez que 10 jeux dans votre ludothèque, c'est sûr, il doit en faire partie. Dans les Aventuriers du Rail, hein, peu importe les variantes, le tronc commun est assez simple. Hein. Vous allez devoir relier des villes entre elles en posant des petits wagons de votre couleur sur le plateau pour marquer des points. Pour cela, eh bien, vous allez piocher des cartes qui vont vous imposer des trajets, genre eh bien Paris-Istanbul par exemple, ou d'autres cartes contenant des wagons colorés avec lesquels eh bien, vous devrez réaliser des associations correspondantes aux couleurs des chemins sur le plateau. Vous pouvez aussi piocher une carte locomotive multicolore et là, ça sert de joker et remplace n'importe quelle autre couleur de wagon. Un exemple, le trajet Paris-Marseille est bleu avec 3 scellements. Il faudra donc soit poser 3 cartes wagon bleu, soit 2 cartes wagon bleu plus une locomotive multicolore pour pouvoir poser eh bien, vos wagons à votre tour. Donc 3 actions sont possibles. Je prends 2 cartes wagon colorées de mon choix, je prends une carte wagon multicolore ou je prends une nouvelle carte destination pour avoir un nouveau trajet parce que bah, j'ai peut-être déjà effectué mon trajet. Alors attention, car placer ces wagons ne sert pas qu'à gagner des points de victoire et à jouer au petit train, hein. Cela peut aussi bien bloquer la progression de vos adversaires, voire même les forcer à faire un petit détour, ce qui aura pour effet bien de vider leur stock de wagons et ça c'est plutôt sympa pour vous. Et une fois qu'un joueur n'a plus de wagons, eh bien, on compte les points et la partie est terminée. D'où l'importance eh bien, d'emprunter les routes les plus directes possibles. Voilà, ça c'est la base des Aventuriers du Rail. Même si à New York, les wagons eh bien, sont remplacés par des taxis et à Londres, eh bien, par des bus, vous l'aurez compris. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu très agréable, hein, à jouer en famille. Et la carte de l'Europe eh bien, donne plusieurs autres possibilités. Et c'est pour ça qu'on a choisi eh bien, les Aventuriers du Rail Europe. Les tunnels tout d'abord. Eux, ils vont rendre certains trajets incertains car on ne connaîtra la longueur du tronçon que lorsque l'on aura construit. Donc on va tirer 3 cartes au hasard dans la pioche de wagon et chaque wagon de la couleur du rail, eh bien en construction, obligera le joueur à se défausser d'une carte de cette couleur supplémentaire au risque de perdre son action s'il ne dispose pas suffisamment de cartes wagon de cette couleur. Un petit problème pour les tunnels. Les cartes objectifs, elles sont séparées en 2 paquets. Il y a les objectifs longs et les cours, ce qui permet bien de mieux équilibrer, je trouve, la distribution initiale, hein, chacun ayant donc un objectif long. Cependant, hein, le nombre de cartes objectifs longs est tellement limité, 6 cartes, qu'il est très facile de deviner les objectifs longs des autres, forcément. Certains tronçons obligent eh bien, de jouer une carte locomotive en rendant eh bien, la prise de carte locomotive plus intéressante. Et enfin, pour moi, la meilleure innovation des Aventuriers du Rail Europe, c'est les gares, hein, qui permettent de relier certaines villes à vos tronçons alors que vous ne possédez aucune route y menant, mais bien une gare. Ça permet surtout aux plus jeunes des enfants de ne jamais baisser les bras, même lorsqu'on est bloqué puisqu'il existe une solution alternative, et bien grâce aux gares. Vous êtes quand même limité, hein, il n'y a que 3 gares possibles. Alors pour moi, grâce et bien à ces nouveautés, les Aventuriers du Rail Europe est un jeu à voir dans sa ludothèque, sympa et facile à prendre en main. En plus, hein, vous pouvez y jouer quand vous voulez. Ici, les trains ne font pas la grève. C'est édité par Days of Wonder et distribué par Asmodée, les Aventuriers du Rail Europe, c'est la référence, mais bon, peu importe la version, il vous faut un aventurier du rail. On va s'écouter tout de suite eh bien, une personne qui a joué aux Aventuriers du Rail.
Alors, les Aventuriers du Rail Europe, l'origine en fait hein, des Aventuriers du Rail, écoute, c'est sympa, c'est un jeu de plateau ouvert aux enfants. On a des missions à accomplir tout au long du jeu, on part d'une ville pour aller vers une autre. Enfin, un petit peu sa géographie, voilà, c'est assez ludique et puis j'aime beaucoup.
Voilà, donc les Aventuriers du Rail aujourd'hui, vous avez su tout sur Draftosaurus, sur l'éditeur Ankama et les Aventuriers du Rail. On se retrouve demain pour un autre C'est Ludique.